is the time to heal in America. Born in
the USA. Voici Raphaël Jacob.
Qui sait des choses que personne d'autre ne sait. Raphaël, j'avais tellement hâte de te retrouver pour que tu nous dises en quoi les États-Unis n'ont pas écouté les scientifiques.
Bien, très simplement, Marc-Claude, au début de la semaine...
On parle de la fermeture de la frontière, c'est-à-dire de la non-ouverture.
Bien sûr. Donc, au début de la semaine, la porte-parole de la Maison-Blanche disait qu'on n'allait pas nécessairement suivre ce que le Canada allait faire, mais on allait suivre nos experts, les experts américains. Voici ce que leurs experts disent, Marc-Claude. Pas il y a 6 mois, pas il y a 3 semaines. Aujourd'hui, je te cite, les Centers for Disease Control, l'équivalent un petit peu, si on veut, de l'Agence américaine de santé publique. Donc, je cite, « Si vous êtes pleinement vacciné, vous pouvez reprendre vos activités pré-pandémiques. » Et si vous voyagez aux États-Unis, vous n'avez pas à vous faire tester avant ou après votre voyage ou à faire une quarantaine. Fin de la citation. Donc, ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on donne comme recommandation formelle aux Américains qui sont vaccinés. Pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas aux Canadiens vaccinés? C'est quoi l'explication, Marc-Claude, scientifique pour ça? C'est parce que ton corps réagit différemment au vaccin? C'est une photo de la reine dans ton passeport? Parce que... aux dernières nouvelles, j'en vois pas d'autres explications.
C'est l'affaire du Mexique tantôt, tu disais. Moi, je pense qu'effectivement, t'as tout à fait raison. Puis M. Charest en parlait aussi, l'ancien premier ministre du Québec, qui en parlait en disant que c'est pas les mêmes enjeux, mais que l'ouverture d'un côté pourrait créer un problème si on n'ouvre pas l'autre.
C'est que ça créerait énormément de pression pour ouvrir la frontière avec le Mexique si on rouvrait celle avec le Canada et... si on ne veut pas faire rouvrir celle avec le Mexique tout de suite, ce n'est pas principalement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un facteur, mais ce n'est pas principalement à cause de la COVID, c'est à cause de tous les problèmes migratoires. Puis, j'ajoute quand même une chose aussi, parce qu'il y en a plein qui vont être tentés de dire « ouais, mais c'est à cause du variant, on ne pouvait pas anticiper le variant ». Premièrement, je te parle encore des scientifiques américains. La directrice des Centers for Disease Control, celle qui a été nommée par Joe Biden, a dit noir sur blanc publiquement que les vaccins qui sont autorisés protègent les variants, incluant celui qu'on appelle présentement le variant Delta. Puis, écoute, il n'y a aucune espèce de distinction qui est faite dans les recommandations formelles des CDC en fonction d'un variant ou d'un autre. Puis, j'ajoute ceci, là, présumant que ça devient endémique, cette affaire-là, là, bien, des variants, tu vas en avoir. Delta, lambda, gamma, oméga, bêta, zeta. Écoute, on peut toutes les faire, si tu veux, les lettres de l'alphabet grec. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire que les vaccins sont peut-être inefficaces. Fait qu'est-ce qu'on fait? On garde la frontière fermée combien de temps encore? Écoute, ça va faire... 1 an et demi. Fait que, tu sais, au final...
Puis les pressions viennent de partout, aux États-Unis aussi.
C'est ça. C'est intenable, Marc-Claude. C'est intenable. Fait que, jusqu'au 21 août, c'est fermé pour ce qui est de la voie terrestre. On verra ce qui va se produire au-delà de ça. Parce que, écoute, comme on s'en parlait un petit peu plus tôt cette semaine, c'est assez difficile à envisager un monde dans lequel la frontière est unilatéralement ouverte d'un côté pendant très longtemps.
Oui,
j'imagine qu'il n'y a rien qui est impossible, mais ça serait surprenant.
Et on disait tantôt, il y a un auditeur qui nous appelait puis qui lui nous disait qu'en ce moment, même en avion, il ne demande même pas les 2 doses de vaccin quand tu rentres aux États-Unis.
Exact.
Il ne demande rien. Tu t'embarques, tu t'en vas à New York, tu t'en vas en Floride, il ne demande rien.
Oui, ils sont censés en fait demander un test négatif. Mais il ne demande pas de preuves vaccinales. Puis, écoute, la question que tu as posée à M. Charest est tellement pertinente par rapport à ça, c'est-à-dire pourquoi, et on le prend comme pour acquis comme c'était normal, mais encore une fois, scientifiquement, en quoi est-ce que c'est correct de rentrer par la voie aérienne et non pas par la voie terrestre? Fait que, tu sais, encore une fois, c'est intenable comme position à moindrement long terme. Fait que c'est sans doute pas la dernière fois qu'on s'en parle de ce dossier-là, même si c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a peut-être qui souhaitaient aller à Old Orchard, qui vont devoir prendre leur mal en patience, à moins, comme on se le disait tantôt, qu'ils soient prêts à débourser 2 000 $ et faire 8 heures d'avion pour aller à Portland.
Mais attention, c'est pas 8 heures d'avion, Portland, c'est 1 heure de Montréal, max.
Non, je le sais, mais il y a
Pourquoi 8 heures?
Il n'y a pas de vol direct.
Donc, faut que tu passes par, Montréal, genre New York, Portland.
Puis après, tu remontes à Portland.
Faut
que ça te tente d'aller manger ton petit hot dog à Old Orchard.
Ou ton lobster roll.
Mais sais-tu quoi? Pour le lobster roll, Marc-Claude, je le ferais peut-être le 8 heures d'avion.
Moi, je pense que j'irai dans ta valise. Bon, OK. La pagaille règne au sein du comité chargé d'enquêter sur l'insurrection du 6 janvier au Capitole. Qu'est-ce qui se passe?
Écoute, c'est le bordel. Ça n'a pas de sens parce que normalement, une tragédie, une attaque, en fait, il faut l'appeler pour ce que c'était, là, nationale comme ça, comme ce qu'on a vu le 6 janvier, ça devrait faire l'objet presque immédiat d'un comité non-partisan ou bipartisan d'enquête. Et là, c'est encore une fois, c'est le bordel. Fait que tu as eu la présidente démocrate de la Chambre qui est allée refuser d'admettre au sein de ce comité spécial-là d'enquête deux membres républicains. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'ils sont vus assez largement comme ayant été activement parmi ceux qui ont encouragé l'insurrection en premier lieu. Fait que, tu sais, écoute, c'est un petit peu comme amener des loups pour garder la bergerie, tu sais. Fait que la réplique du leader républicain à ça, du leader républicain à la Chambre, ça a été de retirer tous les autres membres républicains du comité. Fait que là, tu te ramasses avec un comité qui serait strictement partisan. Fait que, tu sais, ça n'a pas d'allure. Et parlant de ça, je te mentionne ceci qui est sorti aujourd'hui. Nouveau sondage national diffusé par le réseau CBS. On demande la perception des Américains par rapport à ce qui s'est passé le 6 janvier. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé au Capitole? Donc, quand on demande à l'ensemble des électeurs, c'est un peu plus des deux tiers, 67% qui disent que c'était une tentative de renverser l'élection. Mais auprès des électeurs de Donald Trump, c'est moins du tiers, c'est 32%. On demande aux électeurs de Trump, est-ce que c'était une insurrection qui s'est produite? C'est à peine 20%. Mais écoute bien ceci, ça risque de glacer le sang, là, je te le dis un petit peu d'avance, là. Est-ce que c'était un geste de patriotisme? La majorité d'entre eux disent oui, 51%. Est-ce que c'était une défense de la liberté? 55% disent oui.
Ouais.
On en est là.
C'est assez troublant, en effet, surtout quand on se rappelle les images du 6 janvier. C'était assez horrible, merci.
Exact.
Entente hors cours, en terminant, entente hors cours historique pour mettre fin aux poursuites liées aux opioïdes.
J'en parle, je pense, à l'émission depuis 2 ans. Je sais que tu t'intéresses beaucoup aux enjeux de santé, fait que tu dois être au moins un petit peu familière avec cette saga-là. Mm-hmm. On vient d'accoucher d'une entente d'à peu près 26 milliards de dollars américains que devraient payer les distributeurs puis au moins un manufacturier majeur, Johnson & Johnson pour ne pas le nommer, de produits pharmaceutiques. Donc, on parle là de milliers de poursuites qui ont été intentées suite à la mort de, au meilleur compte qu'on a, là, de centaines de milliers de personnes qui sont faites prescrire depuis des années, en fait depuis des décennies, des médicaments à base d'opioïdes. Donc là, on va soumettre cette entente-là aux États, aux municipalités. S'ils l'acceptent, on laisse tomber la majeure partie des poursuites en question, mais tu sais, c'est tellement horrible, l'horreur, ben, c'est un pléonasme, c'est tellement horrible la réalité humaine qu'il y a derrière ça. Je laisse peut-être les gens avec une petite recommandation pour ceux qui ont Netflix, The Business of Drugs. C'est un documentaire qui a été fait, entre autres, sur cette crise-là, la crise des opioïdes, extrêmement bien faite. Ça donne une petite idée, là, encore une fois, de l'horreur humaine qu'on a vue pendant des années, qu'on continue de voir aux quatre coins des États-Unis.
The Business of Drugs. Ouais. Eh bien oui, je vais regarder ça très bientôt. Bonne recommandation parce que ça permet de mieux comprendre en effet cette entente-là de toute façon. Alors ben écoute, un gros merci Raphaël.
À demain.
À demain, bonne soirée à toi. On va s'arrêter et tout de suite après la pause, Jérémy Rainville sera avec nous pour nous parler de son menu à l'émission amateur de sport qui nous suit à 18h30.